On sait que c'est lourd, hein, on est bien d'accord. Oui. Aujourd'hui, on savait que ça allait être assez dense. Là, je vais trapper, si vous voulez, les questions possibles, parce que j'aimerais qu'on aille sur le dernier thème, si vous le permettez. Peut-être qu'il y en a moins, parce qu'en fait, vous avez déjà eu pas mal d'informations, sur les retombées de l'herboristerie pour le développement des territoires. Donc, grand merci à vous. Merci bien, pardonnez-moi, on ne va pas faire plus, mais... Et Jean Maison, et Laurent Gautin, et Henri Joseph, qui attend avec impatience Victoire Jasmin, puisque nous allons parler de la Guadeloupe. Bien sûr, je sais, chère Victoire, que vous êtes là aussi, vous allez avoir un digne représentant, mais vous le savez depuis longtemps. Donc, de votre île. Voilà. 400 combien mille habitants, je sais, Victoire, je ne sais plus combien de 400 000 habitants, combien vous êtes maintenant en Guadeloupe? 382 000, d'accord, ok. C'était de mémoire, je l'ai pas vérifié, donc 382 000 habitants, ce qui va être un tout petit peu moins, je pense, en Corrèze, cher Jean Maison. Voilà, donc, cher Jean, donc, ravi, moi, parce que j'ai fait un reportage, si vous avez le réécouter, vous tapez Sceau de mon amour Jean Maison, et vous le retrouverez à la date du 23 juin dernier, et on s'est fait une balade géniale, géniale parce qu'elle était très humaine, avant toute chose, elle parlait évidemment aussi de plantes sur son métier, donc aussi d'herboriste avec le comptoir donc d'herboristerie, qui se trouve à Saint-Augustin. Comme vous le savez, Saint-Augustin se trouve donc dans au pied des Monédières, dans le massif des Monédières. C'est un des hauts lieux, ça aussi, du Limousin. Nous sommes dans le département de la Corrèze. C'est beau, et il y a un homme qui est tout à fait en cohérence depuis qu'il est, j'allais dire, tout petit, qui est donc Jean Maison. Négociant herboriste, fondateur du comptoir d'herboristerie en Corrèze. Et donc là, ça nous intéresse de savoir quelles sont les retombées pour le développement des territoires. On le rappelle, 80% aujourd'hui donc de ces plantes sont importées. On a aussi entendu le chiffre de 80% qui ne sont pas bio, qui sont donc conventionnels. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Et moi, j'ai très envie que vous commenciez, parce que vous êtes un homme d'une sensibilité assez rare, peut-être par un tout petit poème, mais très court, je le sais, cher Jean, pour poser peut-être un petit peu le décor de votre philosophie.
Merci. Avant de débuter, je veux dire merci à Joël Labbé et à Fanny Dupéret, parce que depuis des années, ils mènent ce combat. On est heureux de le mener à leur côté, modestement, chacun à notre place et suivant nos possibilités. Mais merci beaucoup. Et alors, les plantes, c'est aussi une économie. Mais l'économie, c'est pas un gros mot. Le commerce, c'est pas un gros mot. C'est une nécessité, c'est une humanisation du monde. Mais je voulais débuter par un homme que j'admire énormément, qui s'appelle Jean Grosjean, qui est un poète, qui est mort il y a quelques années. Et moi qui ai débuté comme cueilleur en Corrèze en 1976, avec Nature et Progrès à l'époque, j'ai entendu ce dont Jean parle. Voilà son mot dans Nathanaël. Maintenant, derrière le hangar, écoute le cri que tu n'entendais pas, le noir cri des aromates, mais il fallait vivre. Grosjean a discerné la confusion naturelle de nos aspirations, et ce que je vais essayer d'aborder tout à l'heure montre à combien nous sommes confus et contradictoires, et dans nos aspirations, et dans la réalité, et la gestion de cette réalité. Mais c'est également la confusion de nos gestes, de leurs conséquences, notamment envers l'espace végétal. Ce court poème de Grosjean, ce court extrait, en montre toute l'étendue. L'herboristerie aujourd'hui, l'herboristerie en gros, moi je suis négociant maintenant, mais je travaille aussi auprès avec des producteurs dans le monde entier, mais beaucoup en France. Plus que jamais, est l'exemple d'une valeur immatérielle. L'herboristerie parle confusément à chacun et à chacun d'entre nous parce qu'elle est, elle mêle un archétype humain, une conscience essentielle du lien que nous avons à l'univers végétal. Il y a une irrationalité qui s'est installée parce que nous attendons de la plante souvent quelque chose qu'elle ne peut pas nous donner par rapport à notre espérance, c'est-à-dire qu'elle peut nous donner beaucoup, mais pas forcément de la façon dont on l'imagine, et on lui prête beaucoup de vertus. Or, pour revenir au cœur de la question
territoire,
bon, j'avais préparé tout un travail, mais on va l'abandonner.
Oui.
C'est une nécessité. Surtout avec le numéro 13 qui arrive.
Alors aujourd'hui donc on va dire tout bêtement 12 salariés aujourd'hui donc en ce qui concerne le comptoir d'herboristerie.
Oui.
Qu'est-ce que l'on pourrait espérer? Parce que je veux dire que aussi un élu, il entend lorsque l'on parle d'économie quand on lui parle d'emploi.
Voilà.
Il y a 12 salariés, mais il y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui fait ce que tu fais vivre autour.
Alors tout d'abord le raisonnement, il faut savoir que la France grosso modo c'est 29 millions d'hectares de terres cultivées. Les plantes médicinales sur ces 29 millions d'hectares, tout confondu, conventionnel et bio, grosso modo, allez, 50 000 hectares. Nous sommes face à une situation, c'est que nous avons des personnes de bonne foi, partout, en Europe, en France, qui veulent des plantes avec une traçabilité, une lecture, un conseil, un lien. Or, la réalité complètement différente. Notre travail doit être aujourd'hui, autant que possible, et je me méfie de la surenchère et des grands mots pour aborder ces questions, parce qu'il y a une réalité intangible, c'est qu'on consomme 30 000 tonnes de plantes. Il faut les trouver quelque part. C'est une réalité du quotidien, je vous dis ça à la louche. Pour ce qui nous concerne, dans notre entreprise et depuis de nombreuses années, nous, 100% de nos produits sont issus de l'agriculture biologique ou de cueillettes de plantes sauvages certifiées. Modestement, nous avons accompagné, pour être concret sur un fait, nous avons accompagné à travers l'Association française des cueilleurs un travail sur une charte de cueillette qui reprend ce que le bon sens est évident doit nous indiquer, c'est-à-dire que la conscience essentielle de la ressource, de la nécessité de sa protection et de la valorisation du travail de celui qui produit. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, le client final veut un produit qui reste marchand et qui reste dans un prix marchand. Or, la plante a toujours été considérée comme un menu produit, quelque chose qui n'a pas de valeur, et ramassée par des gens qui souvent n'en avaient pas aux yeux de la société. Or, le monde a changé. Aujourd'hui, la plante est quelque chose qui est important, elle nous parle non seulement pour notre santé, mais elle parle à notre cœur, elle nous dit quelque chose sur l'état du monde. Et cette plante, on veut lui faire faire beaucoup de choses. Elle est intégrée dans la pharmacie, les usages vétérinaires, la cosmétique, l'aromathérapie, la phytothérapie. Pas forcément avec les mêmes nécessités en termes de matières premières. Si on considère demain que la France doit fournir des plantes médicinales, il faut qu'on mette en œuvre, comme on essaye de le faire déjà, à travers des organismes publics comme l'Agence Bio des régions. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, nous nous appuyons sur un groupement de producteurs déjà très engagés pour associer des acteurs économiques régionaux et territoriaux pour développer en fonction des besoins de ces mêmes entreprises des développements de produits associés à des coûts, on va dire, co étudier. Il faut qu'il y ait du discernement dans les œuvres différentes engagées, mais il faut aussi qu'il y ait de la prospérité. Souvent, quand il faut parler des territoires, quelqu'un a évoqué la vigne tout à l'heure, on peut considérer qu'il y a des terroirs en France. La France est riche de ce patrimoine merveilleux. Ces terroirs, ces territoires, ces climats, ces ambiances écologiques, l'immense variété des plantes produisent des qualités spécifiques. On peut s'appuyer sur ces qualités spécifiques. Il faut simplement que l'économie qui en émane soit une économie équilibrée et que le client final puisse... aujourd'hui, on a le tilleul des baronnies, un grand combat. On a l'étain sauvage des différentes garrigues de France. On a la gentiane, qui est un produit qui semble tellement courant et banal. Mais si je pense sur la question, effectivement, il y a des interrogations sur quid de la gentiane à 20 ou 30 ans. Donc, nous devons impérativement associer à l'économie une pensée écologique, pas seulement pour permettre à la ressource de continuer à être abondante, mais simplement parce qu'il y a un respect installé entre cette matière dont nous avons besoin impérieusement et sa nécessité propre de perdurer.
Ouais, c'est-à-dire que moi j'adore parce que en même temps tu as une dimension poétique, une dimension philosophique. Je reviens sur ton territoire. Alors là, moi je vais être très, très concret. Il n'y a pas ton entreprise sur ton territoire. Combien d'emplois en moins?
Aujourd'hui.
Bon, vous êtes 12, mais après, autour.
Alors, on travaille avec 3 ESAT, Centres d'aide par le travail, qui représentent à peu près 40 personnes. Là aussi, c'est une volonté à la fois économique, mais aussi
humaniste.
Évitons les grands mots, mais oui.
Oui.
Ensuite, on a les commerciaux qui sont sur la route, et puis on a les cartonniers. On essaye, les producteurs, chaque fois que c'est possible.
Emploi direct et indirect, ça fait combien? Emploi direct, c'est 12. Après, on va dire quoi?
Je ne sais pas, 30. On va tourner, oui, peut-être bien,
50, 100,
bien. Oui.
Voilà.
Mais c'est etc., toute cette économie, c'est aussi les magasins, tous les relais,
voilà.
Les transformateurs, les personnes qui viennent en relais. Et je voudrais simplement signaler qu'il n'y a pas d'opposition dans les genres, au sens où le paysan herboriste est quelqu'un qui fait un choix d'une orientation, d'organisation et de relation qui n'est pas antinomique avec ce qui est proposé dans une grande surface ou ce qui est proposé chez un herboriste de comptoir ou dans une pharmacie. Ça fait un tout.
Oui.
Et ce tout doit avoir quand même une racine commune qui est le respect pour cet univers qui nous donne à la fois des ressources économiques, mais aussi qui nous humanise. La plante aujourd'hui dit plus que la plante. Cet engouement pour les plantes dit plus qu'un simple « j'ai besoin de soigner ».
Bon, face à un homme politique, une femme politique, tu lui dis « tout ceci nous humanise, il ne t'écoute pas ». Si tu lui dis effectivement qu'aujourd'hui, il y a peut-être des freins qui sont à lever parce que ça pénalise la profession d'herboriste, ça pourrait ouvrir, et donc peut-être ouvrir à d'autres emplois si on desserrait un petit peu les taux.
Imaginons, pour moi j'ai un chiffre, mais je crois qu'il ne faut pas dire de chiffres. Mais
t'as le droit,
si demain matin, le diplôme d'herboriste est rétabli,
voilà.
Ça donne quoi? Je ne sais pas s'il faut que je dise ça, parce que je ne sais pas si... Bon, si demain matin, on rétablit indépendamment, je parle de l'herboriste de comptoir, si on règle cette question, en étant juste, en comprenant que la santé publique doit être au cœur de la constitution de cet objet, toutes les précautions, je pense qu'on va vers 5 000 personnes sans forcer. À tous les stades, des lieux et des points de vente... aujourd'hui, de plantes médicinales et aromatiques. Et il y a un point mort, puisque nous avons un problème de conseil, d'accompagnement, de soutien. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à le thym. Le thym, c'est bon pour ça. Il faut également que nous discernions le mouvement général et le prix qu'on accorde à la ressource même et à l'environnement de cette ressource. Donc ce qu'on appelle chez nous les protocoles de mise en œuvre. Quand on va ramasser un site de vigne rouge, on travaille sur les bases d'un protocole qui va nous dire, je travaille chez un agriculteur, un viticulteur en bio, je dois, avant toute chose, poser 25 questions clés qui vont faire qu'on va pouvoir le ramasser. Tu parlais de la prêle tout à l'heure. Évidemment, si on suit les lignes de chemin de fer, on peut ramasser de la prêle. Mais les teneurs en pesticides, en herbicides sont telles que c'est impossible. Donc, voilà.
Je
en parlerai juste.
Je vais te resserrer un tout petit peu quand même sur notre affaire, effectivement. Quelle retombée de l'herboristerie pour le développement des territoires, cher Henri Joseph? Alors les perspectives. En quoi les plantes médicinales donc peuvent être un levier de développement aussi pour les outre-mer? Mais tu la salues avec le micro.
Notre sénatrice Victoire Jasmin, qui travaille en collaboration donc avec Joël Labbé, et je compte vraiment sur vous pour pousser cette mission que je trouve formidable.
C'est une alliée.
C'est une alliée, donc on sait qu'elle est là, donc dans cet hémicycle, pour veiller au grain. Voilà. Je n'avais pas encore écouté Jean Maison, et j'ai passé une très bonne journée. Mais je suis resté sur mes fins parce que j'ai deux fois entendu le mot vie, donc par le poème de Jean Maison et par notre ami Claire a parlé de vie. Et quand on regarde la définition du mot herboristerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça consiste en la préparation et la commercialisation des plantes médicinales. Mais plante, c'est quoi? C'est un être vivant qui est capable de capter le gaz carbonique, ce fameux gaz à effet de serre, en puisant de l'eau dans le sol, avec des photons de lumière, et transformer ces photons de lumière en énergie chimique qui s'appelle du sucre, qui est un hydrate de carbone, un hydrocarbure, et dégager de l'oxygène. Et nous, on va respirer cet oxygène des plantes, qui est un comburant pour mettre du feu dans un hydrocarbure, le glucose de notre sang, pour rejeter quoi? Gaz carbonique et de l'eau. Ça s'appelle la vie. C'est une interconnexion entre le monde végétal, la photosynthèse, 3,8 milliards d'années, les plantes à fleurs, 50 millions d'années, nous, 70 ans. 70 ans, on a déjà disparu à l'échelle de l'univers. Donc,
en tant qu'Homo sapiens, on arrive il y a 200 000, 300 000 ans, mais après, effectivement, tu disais la durée de vie, c'est que tu veux dire 70 ans, quand tu dis 70 ans, c'est...
70 ans, c'est la vie de l'homme.
Oui,
c'est-à-dire que,
allez,
en 80. Fait, on va passer notre vie...
En pays occidentaux.
80, voilà.
Et qui n'augmente pas, qui n'augmente plus maintenant.
Disons 80 ans. On va passer notre vie à remplir notre poche avec beaucoup d'argent. Et quand on prend un billet, on met ce billet dans notre bouche, on s'aperçoit que l'argent n'est pas comestible. Et cet argent-là, en fait, pourquoi, en fait...
Pierre Rabhi dit que c'est dans le texte, hein, aussi.
Pourquoi, en fait, cet argent-là, en fait, elle est dans une économie extractive. Oui. Toutes les civilisations ont fait des grands trous pour rechercher leur richesse. Mais beaucoup ont disparu. Les Mayas, les Incas, les Égyptiens... n'existe plus. Ils ont fait des grands trous pour chercher de l'or, des diamants, des rubis. Notre civilisation a fait des grands trous pour chercher du pétrole que la nature a pris soin. C'était du carbone d'enterré. Et il a dit surtout ne touchez pas parce que si vous brûlez ça, vous aurez les gaz à effet de serre. Vous aurez l'immigration. Vous aurez les guerres. Vous aurez le réchauffement climatique. Donc je voudrais en fait qu'on soit humble et qu'on pense à la plante. Et je viens sur les retombées du territoire.
Oui.
Parce que je ne veux pas trop monopoliser la parole. En fait, je vis sur une île. Et je vous ai entendu. Vous avez parlé toute la journée de technique. Vous avez parlé toute la journée de principes, de précautions. Mais mon île, la Guadeloupe, en seulement 10 ans, 1976-1993, a été condamnée pour 574 ans. Oui. Vous parlez de principe de précaution. C'est là qu'il fallait mettre le principe de précaution, parce qu'on savait que le chlordécone était plus utilisé aux États-Unis, qu'elle était toxique. Mais on ne trouve pas les coupables.
Jusqu'en 92 ou 97, c'était autorisé.
C'était autorisé de 76 à 93, alors qu'en 76, c'était déjà interdit aux États-Unis. Mais le principe de précaution n'a pas été donné.
Comme l'amiante. Hein. L'amiante aux États-Unis.
Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai été auditionné par les sénateurs il y a 2 jours. Et j'ai demandé instamment aux députés et aux sénateurs qui étaient présents de faire de mon île un oasis planétaire. Pourquoi ? Parce que la Guadeloupe, c'est la seule zone de réserve de biosphère mondiale depuis 1983. Nous sommes patrimoine mondial de l'humanité. De la Jamaïque jusqu'à Trinidad, c'est la seule zone de réserve de biosphère depuis 1983. Et depuis décembre 2018, il y a seulement 4 mois, il faut savoir, je suis au conseil scientifique du parc national de Guadeloupe, et le parc national de Guadeloupe vient d'être labellisé dans le top 10 des forêts les mieux gérées de la planète. Donc,
il ne faut juste pas balancer un téléphérique de bouillante en gros jusqu'en haut, mais ça c'est autre chose. Donc,
voilà.
C'est
donc,
fini ça c'est...
Quand un petit papillon sort de cette zone de réserve de biosphère et qu'il fasse 150 mètres plus bas, le bombarder avec des pesticides, des herbicides, des engrais, on n'en a pas besoin. On ne fabrique pas de chlordécone, on ne fabrique pas de glyphosate, on ne fabrique pas d'engrais chimiques. Gardez-le, s'il vous plaît. On n'en a pas besoin. Parce qu'on est la forêt la mieux gérée de cette planète et personne ne met une goutte de pesticide, une goutte d'engrais chimique, une goutte d'insecticide dans cette forêt. Donc on peut faire sans. Et c'est ce que je fais depuis 15 ans. J'ai vendu ma pharmacie. J'ai vendu ma pharmacie parce que j'étais condamné à vendre des médicaments et soigner la maladie. J'ai vendu ma pharmacie pour faire le bien à dit. Ok ? Donc, en fait, parce que à quoi ça sert d'importer 80% d'aliments dans ce pays Guadeloupe en venant de métropole ? On importe des choses qu'on n'a pas besoin, qu'il faudrait acheter avec un argent qu'on n'a pas.
Alors,
donc, voilà, c'est pour ça que...
Henri, tu sources où principalement sur ton île ? Sur les îles, on va dire, à
non,
côté.
Non, il y a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Nous sommes des départements d'outre-mer qui représentent 97% de l'espace marin et 80% de la biodiversité. Mais les acteurs sont en Guadeloupe. Et nous, on va contaminer les autres, mais en bien. OK ? Et donc, moi, ce que je propose, c'est un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, c'est ce que j'appelle de mes voeux, et qui est un concept par une grande dame qui s'appelle Isabelle Delannoy. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Elle est française, elle est ingénieure agronome. Elle a inventé un concept théorique qui s'appelle l'économie symbiotique, oikos nomos sum bios. Le mot économie vient du grec oikos qui veut dire maison, nomos veut dire gérer. Nous allons gérer la maison, non pas avec les cides, la mort, c'est pourquoi je suis devenu un décideur. Se déforester, c'est enlever la forêt. Le décideur, c'est celui qui enlève les cides. Je suis un décideur.
Bien.
Et donc, en fait, et je vais pratiquer cette économie symbiotique. Et comment je vais faire ? Mon entreprise s'appelle Fit au Bocas, Fit plante autour de la maison. Et comment je fais ? Les productions de mon laboratoire, et j'ai formé mon personnel à ça, je vous interdis de faire de la cueillette, Parce que si vous faites de la cueillette, on est un petit pays, on va faire disparaître la ressource. Donc vous vous démerdez, vous allez voir comment la plante vit dans la forêt, et vous descendez et vous cultivez cette plante.
Vous avez déjà les chasseurs qui sont très bons pour foutre en l'air la biodiversité chez vous, parce qu'ils sont sans limite.
Et donc nous, effectivement, donc on cultive ces plantes en économie symbiotique. Alors je vais vous prendre un exemple. Tout ce qu'on fait dans le laboratoire, ce n'est pas moi qui le fais, c'est la vie qui le fait. Je fais, montre ton écharpe que je t'ai portée et que je t'ai fait avec ma main. On fait de l'indigo. Voilà, ça c'est le bleu. On a le plus bel indigo de la planète Terre.
C'est beau.
Et cet indigo, c'est pas pour faire des écharpes, c'est pas pour faire des jeans. C'est pour porter de l'engrais à mon sol. Parce qu'elle s'appelle Indigofera suffrecticosa, qui est une légumineuse, qui va abriter une petite rhizobactérie, qui sait capter l'azote de l'air N2, qui est un gaz inerte, scinder ses deux N en N célibataires, qui vont se fixer à l'hydrogène pour donner les ammoniums et fixer à l'oxygène pour donner les nitrites et les nitrates. C'est le fameux M du NPK. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans vos champs de maïs? Vous mettez, en fait, de l'engrais chimique fait à partir du pétrole. Et quand vous mettez 100 kg d'engrais dans le sol, il y a 15 kg qui partent en mer et vous êtes emmerdés avec les algues vertes. Et nous, on est emmerdés avec les sargasses. Donc, il faut arrêter ça. Parce que la petite bactérie, il n'y a que 2% qui partent en rivière et en mer. Donc, ils n'ont pas le temps d'arriver en mer. Parce que tout le monde a besoin d'azote. Donc, un, azote. Ensuite, je mets de la bagasse de canne. C'est du carbone. Et il existe une vie qui s'appelle des champignons. Et les champignons sont blancs. Et comme les champignons sont blancs, ils ne font pas de photosynthèse. Et ils ont besoin d'énergie. Donc ils vont puiser cette énergie, en fait, dans le carbone de la bagasse de canne qui est de la cellulose. Et là, ils vont produire ce qu'on appelle des filaments mycéliens. Et 9/10 des plantes sont mycorhizées. 9/10 des plantes, en fait, ont des champignons dans leurs racines. Et ça s'appelle le réseau Internet de communication entre les plantes. Et c'est comme ça que fonctionne la forêt. Donc je reproduis, je fais de la bio-inspiration, je produis de l'indigo, et comme maintenant j'ai le réseau Internet, j'ai l'azote, et à ce moment-là, je vais planter les plantes médicinales, l'herbe à pic pour faire du vir à pic, dans mon laboratoire, parce que c'est une astéracée. Mais comme cette astéracée, elle est amère, les chenilles ne viennent pas. Et comme l'indigo est sensible aux chenilles, eh ben, écoute, moi je te donne l'azote, est-ce que tu peux me protéger des chenilles?
Donc, pour avoir une économie, on va dire, de plantes qui fonctionnent, ça veut dire évidemment pour prendre soin, on a bien compris, le sol et de son environnement, on s'en doute bien un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même important. Non, mais c'est drôlement bien de rappeler aussi ces données qui sont un petit peu fondamentales et traduites, justement, en Outre-mer. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de Victoire ici présente, on est conscient que l'on est quand même assis sur une richesse, que c'est un paradoxe, en même temps c'est une île qui est délicieuse, en même temps c'est une île à point de vue environnemental, je suis désolé Victor, mais c'est compliqué quoi, c'est quand même compliqué, ça va pas de soi, la propreté, etc. Bon, je pense que chez nous que ce soit génial non plus, mais enfin, vous arrivez quand même en Guadeloupe, vous voyez des coins où vous dites, ah ouais, d'accord, il y a encore un petit peu de taf. Question d'éducation, pas une question de mauvaise volonté, mais alors maintenant, est-ce que ces plantes-là, ça peut être un levier de développement?
Mais tout à fait. Nous avons 3800 espèces de plantes. Ces 3800 espèces de plantes, c'est 3800 usines fermées avec 53% de chômage chez les jeunes. Il faut ouvrir ces usines. Nous, sur les 3800, on utilise 5 usines. Galba, on fait de l'huile de galba. On utilise du zèbre charpentier pour faire du bioven, de l'herbe à pic pour faire du vir à pic, de la banane et du gommier rouge. 5 usines, donc il reste 3795 derrière, usines qui sont fermées. Il faut les ouvrir, qui sont des usines potentielles. Et quand le Guadeloupéen verra que ces usines lui rapportent des diamants, il ne mettra pas de pesticides, parce qu'il saura que c'est de l'or.
Là, on comprend. Voilà. Grand merci, Henri. Grand merci. C'est bien, on n'a que des gens passionnés. Jean Maison, tu remarques, cher Jean, tu peux t'appeler Jean Oikos aussi, hein, tu le sais. Laurent Gautin, on va faire un petit tour maintenant du côté de la Lozère. La Lozère, c'est 72 000 habitants. C'est très beau, c'est 5500 km², je ne vais pas vous faire tout le topo. Bref, on est sur le causse de Sauveterre, vous avez l'Aubrac que vous connaissez, vous avez la Margerie, les Gorges de la Jonque, le Mont Lozère, et vous avez le causse de Sauveterre. C'est très joli, Sauveterre, la terre sauve, qui est donc derrière. Producteur donc d'huile essentielle, fondateur gérant d'Essentiaga. Alors, donc, vous vendez en Biocoop, vous allez nous dire effectivement un petit peu où. Et là aussi, donc, d'un point de vue économique, dans une contrée, il n'y a pas forcément autant de boulot que ça, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui et quel levier ça peut être?
En fait, c'est la même chose que chez toi, Henri. C'est un enjeu d'abord pour les territoires de préservation de la biodiversité. Et actuellement, on est avec les attaques de pyrale, on est avec la chenille processionnaire, et le causse, il est recouvert de buis et de pins sylvestres. Alors, de là, imaginez un désert, et je pense que remettre de l'agriculture diversifiée sur des modèles assez figés aujourd'hui, et mettre des plantes aromatiques, il faut avoir vu un hectare de lavande en bio pour voir la richesse et le puits de biodiversité que ça peut constituer et régénérer sur des causses. Et c'est le seul moyen, à mon avis, parce que j'entends parler par des agriculteurs autour, il faut traiter, il faut mettre des robots, je sais pas quoi, pour aller traiter ces chenilles. Le seul moyen, c'est de recréer de la biodiversité et de recréer les équilibres. Donc c'est exactement la même chose. Mais quand le sujet devient assez compliqué, et on le voit maintenant, et on est un peu fatigué, il faut revenir à ce que disent des sages. J'en citerai deux avant d'être beaucoup plus concret. Francis Allais dit que on a plus besoin des plantes qu'on ne l'imagine. Moi, j'ai mis 10 ans, en pratiquant mon métier, à en avoir pleinement conscience. J'espère que les élus de cette honorable assemblée qui s'honore de faire une telle assemblée aujourd'hui sur un tel débat, mettront beaucoup moins de temps, parce que c'est absolument fondamental. Et qu'est-ce que dit Pelt? Il dit la recherche et la valorisation des savoir-faire traditionnels. C'est ce combat-là qu'il faut mener. Alors comment est-ce qu'on valorise les savoir-faire traditionnels? Et comment est-ce qu'on fait qu'on récupère une part de ces plantes qui sont à 80 ou 90%, les huiles essentielles sont au moins 90%, importées et les relocaliser en France? Alors moi, je propose plusieurs pistes. La première, on me dit que c'est compliqué, mais moi, je pense qu'il n'y a rien, même sur l'échelon européen, qui ne soit insurmontable. C'est une question de volonté, de technicité des élus, à nous de leur apporter les éléments pour pouvoir travailler des dossiers extrêmement complexes. C'est très difficile de trouver des solutions. Alors, face à la menthe poivrée indienne qui inonde le marché, il faut pouvoir afficher sur nos flacons d'huile essentielle, et que ce soit une obligation, l'origine géographique du végétal. On l'a déjà en bio comme une presque pas forcément systématique, on peut biaiser une UE non UE, mais déjà pouvoir permettre aux consommateurs, comme pour le miel et d'autres filières, de pouvoir différencier et donner une valeur aux choses. C'est clair que si on produit en France à de qualité artisanale et des produits haute qualité, c'est la seule chose qu'on peut faire face à la concurrence internationale. Et bien, il faut pouvoir différencier ce produit-là des autres. Donc les labels doivent y aider. Il n'y a pas d'issue que par la technicité et monter en compétences nos savoir-faire. Ça, on a des organismes, le CRIEPAM existe. Peut-être il faut en tout cas les soutenir, ces structures-là. Notre filière est très structurée. Peut-être elle ne fait pas assez, peut-être elle est trop orientée sur de la chimie. On pourrait faire plus pour développer l'agriculture biologique. Mais on a besoin de technicité. Et des pionniers comme Christian Nugier, que je citais aujourd'hui, parce qu'on est plusieurs à être un peu élèves de son école, il a su relever le standard de qualité et d'exigence. Il ne faut surtout pas aujourd'hui le renier et l'abaisser. Le troisième point, c'est le cadre législatif. Je prends l'exemple de la carotte sauvage. Ça va être très parlant et très concret. C'est une ressource qu'on a sur le causse de Sauveterre. Mais tant que la législation poussera ou incitera les acteurs à faire n'importe quoi au niveau de l'étiquetage, on ne pourra pas valoriser. Regardez ce que j'ai trouvé dans un magasin bio. Ça, c'est la carotte sauvage. C'est pas plus dangereux que y a des huiles essentielles qui sont sensibles. Mais la carotte, c'est comme la lavande, peu ou prou dans ses molécules. Elle a 4 pictogrammes. N'en jetez pas. Je pense que le glyphosate, je sais pas s'il est encore dans les certains points de vente, mais il les affiche pas, ces 4 pictogrammes. Donc on stigmatise un produit super intéressant qui est digestif en l'orientant vers un usage de parfum d'ambiance alors que ces usages documentés, bibliographiques, sont sur la peau en cosmétique ou par voie orale. C'est un non-sens complet. On conduit par une législation inadaptée, et peut-être elle est européenne, mais il faut l'adresser, il faut la bouger, c'est pas possible, on ne peut pas admettre ça. On est en train de tuer notre produit, et on est incapable de valoriser donc notre produit dans ces conditions. Ensuite, c'est dans les territoires, ce qu'on essaie de faire en Lozère, je vais expliquer rapidement si j'en ai le temps, la dynamisation de filières. Et on peut les créer à l'échelle d'un territoire limité. La Lozère, qui est absolument formidable, entre Aubrac, Gorge du Tarn, l'Écosse, on a tout. C'est la tache blanche sans pesticides sur la carte de France. Donc elle a plein d'atouts. On a des atouts, il faut s'appuyer sur ces atouts-là du territoire. Par exemple, le nôtre, c'est d'avoir un domaine médico-social qui est extrêmement développé. C'est un emploi sur 5 d'actifs. On a un potentiel, par la propreté du territoire, de faire de la diversification dans les plantes aromatiques. Et ben, ce qu'on est en train de construire avec les élus, il faut convaincre, et c'est 2 ans de travail pour les convaincre, de l'intérêt structurant de ce sujet-là, de filière globale, c'est-à-dire partir et faire l'expérimentation sur l'aval soin dans les centres, et remonter vers la filière. Et là, on est sur quelque chose de très simple, parce qu'on inverse le processus classique. On produit, puis on verra bien ce qu'on en fait du produit. Donc, on part du marché et on s'adapte, ce sont des niches. Et on associe tous les acteurs possibles sur ce travail. On a besoin d'ingénierie, on a besoin que l'État nous soutienne aussi dans cette démarche-là. Ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de déposer, c'est pas encore, ça sera... On a jusqu'au 27 pour le faire, je pense que c'est déjà fait d'ailleurs. On est en train d'inscrire ce projet plantes et santé dans un projet plus global de territoire avec un dispositif très intéressant mis par le ministère de l'écologie, le contrat de transition et écologique. Qu'est-ce qu'on inscrit en plus de la filière plantes et santé? On inscrit une dimension sociale de développement, la montée en puissance de métiers. Quand on parle aujourd'hui aux lycées agricoles en Lozère, ils sont pas trop sur le bio. Il y a des métiers nouveaux qui sont induits, que l'on voit, qui devront être déclinés par des formations localisées. Donc ça, c'est une autre dimension, et on l'inscrit aussi dans une dimension énergétique. Et quand on cultive des plantes aromatiques, on remet tout ce carbone-là dans les sols. Donc ça, c'est un des aspects de la dimension énergétique, mais on peut l'inscrire dans une globalité, ce qui nous permet d'avoir un engineering d'État et une mobilisation sur différents enjeux, qui peuvent être aussi la mobilité dans le territoire, qui font que ce projet plantes aromatiques, qui peut concerner que quelques-uns, et ben devient un projet plus global, et des élus qui ne sont pas spécialement écologistes, mais même plutôt remontés parfois contre l'écologie, viennent à adhérer, donc on doit convaincre. Et moi, je conclurai, si vous voulez, par le fait que, en écoutant les auditions, beaucoup de choses ont été guidées, je trouve, par une logique, en tout cas dans des postures un peu plus institutionnelles, par une logique de peur et de risque. Ben moi, je vais essayer de le proposer sur une logique d'opportunité. On a une perte de chance, on a à évaluer effectivement la question des pertes de chance liées aux plantes. Mais on doit maîtriser et aller vers la maîtrise de cette perte de chance par des articulations intelligentes, mais c'est aussi la perte de chance qu'il faut évaluer pour les territoires. Les territoires, ils ont besoin des plantes aromatiques, comme ça soit comme la Guadeloupe, comme pour nous avec les menaces, avec l'arc méditerranéen qui est en train de venir déstabiliser des territoires d'un point de vue climatique. Donc on peut gérer les deux enjeux, mais c'est une question de volonté, et c'est d'abord une question de volonté politique, et on doit vous aider dans la complexité de ce dossier-là.
Ben là, on a un très joli lien. En ce qui concerne la perte de chance, vous fermez 3 KFC par ville, et là, vous avez de la perte de chance en moins. Bon, non, alors ça, c'est vrai que c'est là le lien, il est extrêmement direct. Je pensais une chose, c'est que Saint-Germain-de-Calvert, c'est pas à côté de chez vous, mais enfin, c'est en Lozère, voilà, par rapport à où vous êtes. Vous avez la Garance Voyageuse qui fait un boulot absolument formidable depuis des années. Non, mais vraiment... Il vous parle dans ce numéro de printemps donc de la berce Donc il y a aussi dedans donc la grande berce du Caucase qui est très chère à mon copain donc Gilles Clément. Vous avez la petite oseille que vous avez trouvée dans les sous-bois. Vous avez le palmier disparu de Rapa Nui, donc ça c'était sur l'île de Pâques, avec une gestion qu'ils ont eue qui était une catastrophe, avec des guerres entre tribus. Donc vous avez tout ça, voilà. Donc vous le savez, mais je veux dire que c'est important parce qu'il faut vraiment soutenir aussi donc la garance voyageuse. Souhaitez-vous intervenir 48, on est bon. 48, ouais, voilà. Je sais pas si vous souhaitez intervenir sur ce thème-là. C'est-à-dire là, on est bien sur ce thème, les territoires, développement territoire. Vous repartez pas sur ce qu'on a fait avant, mais retombée de l'herboristerie pour le développement des territoires. Allons-y. Tout de suite. Saïda, on y va.
Moi, je proposais mais plutôt un point global sur toute la journée. Juste une remarque, est-ce que c'est possible
ou... Oui.
Alors en fait, moi, j'ai l'impression que...
Les médias,
que...
c'est ça, c'est-à-dire que moi, je pose une question, et alors c'est très poli, tu dis oui, mais je voulais vous dire. C'est très classique, il n'y a aucun problème. Donc oui, très... Denis, mais je veux poser mon point de vue sur la...
Pour recentrer, en fait, justement, sur la question de la journée, et il me semble que bon, le constat qu'il y a un problème législatif est posé par tous, et qui a été... Il y a trois points d'entrée qui ont été globalement proposés par l'ensemble des intervenants pour le pas suivant. Le premier, c'est le point par la toxicologie, c'est-à-dire on regarde qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas toxique. À partir de là, on décide de ce que l'herboriste a le droit ou pas. Le deuxième, c'est l'entrée par la législation actuelle. On regarde comment ça fonctionne et à partir de là, on dit qu'est-ce qu'on peut faire à la législation ou pas pour construire le métier. Le troisième, c'est l'entrée par la réalité. Et à mon avis, c'est peut-être je parle parce que je suis ethnologue, sociologue, mais c'est le seul point possible, c'est-à-dire que ce soit dans les territoires d'outre-mer ou en métropole, il faut, je pense pour ma part que la législation doit accompagner le changement social et ne le crée pas. Et que demain, si on continue d'interdire, par exemple, le bleuet ou d'interdire les plantes locales, eh bien, on ne va pas se mettre devant les herboristeries et dire aux gens « Non, vous ne passerez pas, non, vous n'aurez pas ces plantes. » Ils iront les chercher de toute manière. Et donc, je pense que seule la réalité doit être le point de départ pour construire l'herboristerie de demain. C'est tout.
Eh ben, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Une tête très bien faite qui nous fait une jolie conclusion. C'est formidable. D'autres réactions, s'il vous plaît?
Oui. Donc,
je vous en prie.
Ça marche, là?
Ça marche.
Et quelque chose que je voulais souligner par rapport au territoire, oui, et à l'herboristerie ou au métier en général. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la comparaison de 5000 et quelques plantes qui fournissaient chacune un emploi. Parce que, en fait, ce qui est un point très positif par rapport aux élus et par rapport au développement public, c'est la notion de sens. Les emplois qui ont du sens par rapport à un territoire. C'est quelque chose qui est très important. Vous allez me dire, c'est un peu gênant parce que ça focalise l'herboristerie sur les herbes que l'on a dans la région. Mais il faut voir aussi que l'individu, la personne, et on l'a dit tout à l'heure, si on remet l'homme au centre du débat, l'homme est quand même sur un territoire. Et il profite de ses plantes.
Merci bien. On y va. Hop, monsieur.
Oui, bonjour. L'organisme auquel j'appartiens, France Agrimer, a suivi, enfin, sous différentes formes dans le passé, tous les projets de développement autour des plantes à parfum aromatique et médicinal depuis 40 ans. Alors, je voulais simplement dire que, première remarque, c'est un secteur de production agricole, j'y ajoute la cueillette volontairement, qui est en expansion, et qui est en expansion notable, particulièrement depuis 10 ans. Donc, contrairement au reste de l'agriculture, qui est en grande difficulté, tout le monde le sait, c'est pas le cas de ce secteur-là. Donc déjà, il y a une réalité de développement qui est celle-là. Par contre, de l'avis de tous les professionnels de ce secteur, et je reprends des choses qui ont été dites aujourd'hui très simplement, l'obstacle majeur, c'est l'obstacle de la vision réglementaire et sociale de toutes les activités autour de ces plantes qui entraînent de la complexité, de la confusion, de l'incertitude juridique, des difficultés, etc. Moi, j'ajouterais un obstacle supplémentaire que j'ai vécu de près, notamment par rapport aux DOM, c'est le centralisme qui nie les réalités profondément différentes des territoires. Or,
Quand on parle de plantes, on parle de réalités différentes. Quelqu'un a dit tout à l'heure, on a des climats, des sols, des habitudes, des espèces végétales qui sont différentes partout. Et la réalité de ce secteur, en dehors des plantes à molécules faites par les grands labos pharmaceutiques, c'est une très grande diversité. Et donc, il y a tout un tas de projets de territoire qui marchent et qui ont marché. Il peut y en avoir d'autres demain. Il n'y a pas d'endroit interdit ni d'endroit réservé. Il y a une condition qui me paraît essentielle, c'est de partir des acteurs locaux et des acteurs locaux dans un cadre de coopération, pas dans un cadre d'affrontement, des usages, des méthodes, des métiers, etc. À cette condition-là, à ces conditions-là, ça marche. Et ça marche aussi bien par des gros labos genre Pierre Fabre que par du safran pour les restaurateurs du coin, que par... Enfin, il y a mille façons d'avoir des projets qui marchent et qui se maintiennent. Il n'y en a pas une qui serait la façon orthodoxe et les autres, non. Mais ça marche et ça peut marcher encore plus demain à condition des résultats du travail qui a été engagé dans toute cette période, sortir de cette espèce de confusion des règles, des méthodes, des avals et des conditions de financement de tout ça.
Merci beaucoup. Place au territoire, donc on l'a compris, et après que ça percole, mais dans le sens de remonter, je vous en prie.
Moi, j'ai juste une petite remarque à faire par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Je crois que c'est Aline qui nous a dit que les hauts plateaux himalayens avaient perdu, étaient décimés de certaines plantes. Et je pense que nous sommes en partie responsables de ce qui se passe, pas seulement en tant que consommateurs, mais c'est aussi le fruit de ce silence qui a pesé sur nos plantes locales. Et moi, j'ai espoir, s'il y a des changements réglementaires sur l'herboristerie, c'est que nous puissions aussi valoriser toutes nos plantes locales. C'est-à-dire que si on... La dernière fois, j'avais fait cette image-là après une projection d'un film, j'avais dit si on avait la carte du monde devant nous, sur cet écran, par exemple, derrière nous, on pourrait trouver, pour chacun des peuples, des principes actifs qu'on va retrouver dans différentes plantes et donc des actions. C'est-à-dire que, par exemple, moi, les gens me demandent du curcuma ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai envie de dire, mais vous oubliez nos plantes anti-inflammatoires qui sont ici et nous en avons plein, à compter par l'ortie, etc. Donc je pense que si on arrive à libérer notre parole, nous arrivons aussi à libérer notre flore locale qui a l'air comme ça de ressembler à rien, mais qui peut être absolument merveilleuse. Donc ça, c'est la première chose et je pense que c'est en cohérence avec ce que vous avez dit sur les territoires locaux. Et il y a autre chose de... Pour moi, très important. Tout à l'heure, vous avez demandé un petit peu, certainement, avec votre humour, si l'herboristerie pouvait être biologique ou pas. Pour moi, c'est un non-sens, parce que s'il n'y a pas d'écologie avec l'herboristerie, on se casse la figure, d'une part. Et en plus, nous sommes sur des questions de santé, sur les questions de santé de sol, de l'eau, notre santé à nous, humaine. Vous avez parlé de la santé de l'eau et que c'était une problématique d'avenir, mais pensons à tous les médicaments, les résidus de médicaments. Quand vous buvez de l'eau du robinet, vous buvez une pilule contraceptive et des antidépresseurs et ainsi de suite. Donc la santé par l'herboristerie, c'est aussi une santé d'avenir pour l'ensemble, nous, en tant que personnes, parce que les gens qui se soignent comme ça sont moins malades. Certes, il y a une prévention réelle, mais c'est la santé aussi de nos territoires et de notre écosystème.
Merci à vous. Et juste rappeler que si on était un peu cohérent, vous avez donc aussi ce que vous dites là sur les plantes et aussi valable par exemple pour nos meubles de jardin, le merveilleux tech, le robinier acacia, il a à peu près les mêmes vertus. Hein, donc je vous en prie. Qui a le micro, allez-y, parce que.
Oui. Bonjour. Donc voilà, je voulais intervenir pour faire une remarque en fait en ce qui concerne tout ce qui est réglementation, contrôle. Je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas assez abordé en fait le point qui a été évoqué par Thierry Thévenin, qu'en fait en son syndicat des simples, hein, il a mis en place en fait une réglementation, une charte qui est basée sur la confiance, sur l'entraide, hein, sur le regard de l'autre. Hein. Donc c'est vraiment, on est dans
le contrôle par les pairs, oui.
Exactement, et dans l'espèce, dans l'esprit de la coopération, de la confiance et le contrôle absurde dans lequel on doit faire face aujourd'hui, je pense que ça casse les métiers de l'herboriste. Et il y a beaucoup des herboristes en fait, qui sont découragés par ce contrôle insensé qui est absurde. Donc je pense qu'en fait, notamment pour encourager l'économie locale, solidaire, coopérative sur les territoires, il faudrait peut-être revenir aussi en fait, vers les fondamentaux qui sont le partage, la confiance à l'autre. Et ça me paraît en fait un autre levier pour encourager cette branche.
Merci à vous, je vous en prie. On y va. Allez, les petites dernières.
Bonsoir. Le colloque aujourd'hui parlait donc... Vous m'entendez ? C'est bon. Le colloque parlait sur les métiers de l'herboristerie. Et nous sommes donc étudiantes en herboristerie.
Oui.
Et,
vous êtes où ?
À l'ARH.
Voilà.
Voilà. Ouais. Et on a entendu donc que les écoles se battent depuis de nombreuses années pour qu'il y ait un diplôme qui soit reconnu. Sûr. Et on se demande pourquoi, du coup, il y a une licence qui va être créée alors que... Il y a justement, les écoles n'arrivent pas à obtenir un diplôme commun. Donc voilà, c'est la question. On regrette qu'on n'ait pas pu poser la question tout à l'heure aux intervenants. Voilà.
Ok. Enfin, cela dit, c'est pas exactement la même chose. Hein, s'il y avait entre le conseiller vente, c'est ce dont vous parliez, qu'on a entendu effectivement là-dessus. Oui, je sais, vous pouvez aussi avoir ce même métier après en sortant de l'école. Mais ça vous avez peur que ça se fasse aussi que l'un et l'autre, que ça. Alors oui, je sais pas, oui. Allez, hop, 3 secondes. On y va. Toi, le micro.
Donc, la licence pro, c'est une solution que nous, on a trouvée avant que démarre toute cette réflexion, en fait, et ces échanges. On souhaite continuer à collaborer avec les écoles d'herboristerie et on souhaite qu'il y ait des projets qui sortent de cette mission et notamment un diplôme d'herboriste. Alors, on ne sait pas sous quelle forme ça va se développer, mais c'est le souhait commun. C'est-à-dire que nous, on a répondu à une problématique, l'absence de formation sur du conseil de vente, donc prévention des risques, savoir conseiller, le positionnement bien-être, etc. Et ce qu'on veut, c'est effectivement que ces herboristes, ces professionnels spécialisés puissent voir le jour et puissent exercer. Et donc, c'est un peu tout l'objet de la mission actuellement. Donc, c'est pas contre, mais c'est en démarrage de et en vue de quelque chose qui soit plus global après. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là.
Merci beaucoup.
Alors, on a Bac plus 2, mais c'est un démarrage. Donc, effectivement, on a quand même beaucoup de monde qui ont déjà ces prérequis qui vont suivre cette formation-là. Donc, on peut pas... Après, il faut bien un début. Donc, on part effectivement à ce Bac plus 2 avec... sur toute licence sciences de la vie, sciences pour la santé. Et on va avoir... on forme des gens qui vont quand même donner des conseils santé. Et nous, on veut une reconnaissance dans le domaine de la santé. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il y ait plus de liens entre les professionnels de santé et les herboristes. On ne veut pas couper et justement laisser quelque chose qui ne soit pas du tout en lien avec le monde des professionnels de santé. Et on veut qu'il y ait une vraie reconnaissance du positionnement santé concernant les plantes et les produits d'herboristerie. Donc c'est pour ça qu'on exige de partir et de donner un niveau suffisant pour pouvoir revendiquer ce positionnement santé. Voilà.
Oui, vous allez pouvoir, il n'y a pas de problème. Alors, attendez. Alors, pourquoi vous n'acceptez pas donc les gens qui sortent de l'école d'herboristerie ?
Oui, alors, j'ai pas eu le temps de tout dire, mais en fait, on a effectivement validation des acquis de l'expérience qui est prévue. On a de la formation, la formation sera ouverte en formation continue. Pour des reconversions, donc effectivement, non, on veut répondre à un besoin de formation. On ne veut pas fermer en disant c'est que nous et c'est que là. Et on veut justement, la licence pro, l'envisager pour répondre à vraiment un besoin de formation sur tout circuit très différent. Maintenant, si on arrive tous ensemble à proposer un diplôme qui réponde à toute la problématique, c'est un petit peu vers ça que je pense qu'il faudrait qu'on aille.
Merci Sabrina. Laurent Gautin. Laurent Gautin, et après, j'arrive à vous.
Sur ce sujet-là, je voudrais dire qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'on a besoin de tout le monde sur le pont. On a besoin de toutes les initiatives. Elles doivent être dans une logique de complémentarité. On a besoin aussi que les centres, qui sont dans les troncs communs, pharmacie, médecine, les plantes rentrent. Enfin, en tout cas beaucoup plus fortement qu'elles le sont aujourd'hui. Donc il y a besoin de toutes les initiatives, je pense.
Je vous en prie. Ah, attendez, on peut vous passer le micro parce que sinon. Alors, attendez,
j'avais une.
Alors, juste... Et je vous le passe juste après. Je vous passe... Non, ouais. Oui, oui, non, mais on se doute bien, mais c'est pas la peine de. Tenez. C'est du corps, c'est pour vous en prie pas.
Voilà, en fait, votre cursus propose, donc, il y a un module, enfin, je sais pas si c'est comme ça que je peux formuler, mais d'herboristerie, mais vous faites aussi du conseil. Tandis que nous, on n'a pas droit de faire du conseil. Donc, du coup, c'est là où.
Oui. Que vous sentez un peu.
Complètement.
Un peu floué.
Complètement.
Disons-le.
Ouais, je souhaite effectivement qu'il y ait les évolutions réglementaires sur la reconnaissance des allégations traditionnelles qui ont vraiment boosté et permettent cette reconnaissance, mais il y a déjà des possibilités et nous, dans le cadre de cette formation, on va effectivement expliquer comment on va pouvoir positionner ces produits qui ont une place et c'est tout cette médecine complémentaire, cette médecine de prévention qui va pouvoir, que nous, on souhaite proposer dans le cadre de la formation.
Alors, on sent bien qu'on va vous mettre totalement d'accord, ça, on est d'accord. Mais au moins, c'est bien parce que vous avez bien pointé. Alors, cela dit tout à l'heure, vous aviez la place pour poser les questions hein, sur ce domaine-là. Bon, mais là, c'est bien, c'est arrivé comme il fallait. Oui, vous me le faites très vite. Alors, monsieur a déjà le micro.
C'était juste pour revenir sur la partie du sujet, là, des valorisations sur les territoires. Oui. Pour illustrer aussi d'un exemple qu'on a mené dans le Maine-et-Loire. Donc, on est une association qui représente l'amont et l'aval, et on parlait de co-construction. Je pense qu'un des enjeux, il est là. Et c'est une structure qui a une quinzaine d'années, qui s'est posé des questions, comment on peut faire avancer la filière ensemble. Et on a mis en place des initiatives qui sont relativement simples. On a mis en place un label qui est engagement qualité Phytolia pour accompagner les producteurs sur les questions des échantillonnages, de la gestion de critères qualité. Et on vient de lancer aussi un label pour répondre à une demande du marché. C'est le label plante d'origine prouvée, qui permet à partir d'un numéro de lot produit fini de remonter jusqu'à la parcelle. Si on veut amener ce type d'information aux consommateurs, c'est validé par Phytolia qui le gère de manière indépendante. Chacun des intervenants va lister, en fait, va mettre les informations sur la parcelle, sur la plante qui travaille. Et ça, c'était pour répondre par rapport à des problématiques qu'on avait identifiées dans la filière de traçabilité. Oui. Donc ça illustre que dans nos régions, en effet, il y a des initiatives qui sont, il y a des belles initiatives qui ont été décrites. Aujourd'hui, on a quand même une problématique, c'est que ces initiatives restent parfois régionales. Tout à l'heure, vous posiez des questions sur les emplois directs, indirects. On a beaucoup de mal dans notre filière à pouvoir mettre le poids économique de cette filière, ce que ça représente en termes d'emplois, de ressources. Et on voit bien qu'il y a un besoin de visibilité, de se regrouper. Alors actuellement, il y a des projets d'interprofession qui doivent aussi répondre à cette questionnement-là et qui permettent de valoriser tout ce qui se fait aujourd'hui sur nos territoires.
Merci à vous. Qui avait le micro là-bas? On y va. Je ne sais pas qui l'a là. Oui, je vous en prie. Allez-y.
Oui, alors bonjour. Moi, on est producteur dans le nord de la France, dans le nord Mayenne. J'ai juste une précision à apporter.
Allez-y, il peut parler un tout petit peu plus fort ou bien voilà, vous le connaissez.
On est attaché à la biodiversité. Il y a un manque d'informations sur comment aller rechercher le statut d'une plante. Et il y a un seul vrai site qui, à mon nom, est bon, c'est celui de l'INPN, l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, où là, on a des vrais statuts des plantes, parce qu'on voit des livres, etc., où qu'on nous fait cueillir du fragon, où qu'on nous fait cueillir de la ficaire, des genres de plantes comme ça, qui sont listes rouges. Elles sont en voie d'extinction. Donc j'aimerais bien que, comme toute la filière est là, de partager que l'INPN, c'est vraiment un bon site qui est actualisé, qui est officiel, où il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de Wikipédia, il n'y a pas de Tela Botanica dedans. Et il faut absolument aller consulter les sites de l'INPN et se voir les ravages, le nombre de plantes en liste rouge. Et il y a le classement région par région, département par département. Et c'est important si on veut vivre de notre métier.
Merci beaucoup.
Alors, apporter juste une précision sur les formations, puisque Il y a une licence également consacrée aux compléments alimentaires et plantes médicinales, une licence pro qui ouvre en septembre à Rennes. Le dossier, il y a 4 ans qu'il a été déposé. On a été accepté par le ministère il y a 2 ans. On ne l'avait pas ouvert pour des raisons matérielles d'organisation. Et le master qui, quelque part, anticipait ça, il a maintenant 10 ans. Donc, je veux dire, les formations, elles existent déjà, simplement. C'est qu'on ne communique pas forcément beaucoup dessus. Mais tout ce qui concerne les plantes, la technologie, la physiologie, pharmaco, etc., on l'aborde d'une manière déjà relativement approfondie.
Merci beaucoup.
Pour votre gouverne, non. Il y a 39 candidatures actuellement, pour vous donner une idée, puisque vous avez posé la question dans l'après-midi.
Pardon.
Là, ça donne une idée.
Moi, je voulais juste dire qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, en fait, et que je parlais avec quelqu'un qui est une élève de l'école des plantes et qui est aussi un peu dans le domaine politique, et elle me disait que finalement, quand les chasseurs, ils représentent pas, ils sont pas très énormes, ils ont un sacré lobbying. Elle disait pourquoi, voilà, il faut arriver à créer un lobbying, en fait, quelque part un lobby finalement des herboristes. Ça a été mentionné, ça, à un moment donné. Il faut en fait, en tout cas, Thierry Thévenin a aussi parlé de, il faut arrêter de quelque part de sectoriser, de les silos, les machins. Donc, si on est là aujourd'hui tous réunis, que ce soit des pharmaciens, des médecins, c'est pour réfléchir tous ensemble, en fait. Et donc aussi à nous, en fait, je voulais juste aussi dire ça, c'est qu'à nous aussi, en tant qu'individus particuliers, de solliciter nos élus. On a déjà des élus ici dans la salle et sénateur Joël Labbé, c'est ce qu'il fait aussi. Mais à nous, en fait, de continuer à faire passer cette pétition, à envoyer des courriers à nos élus aussi, avec de les nourrir. Cette personne qui me disait que nos élus, en fait, ils ont besoin, en fait, d'être nourris, d'avoir des informations, parce qu'eux, ils ont déjà une telle charge de travail qu'ils ne vont pas forcément aller chercher les infos. Donc à nous d'aller parler dans ces termes, moi je sais même pas, de verbatim, de choses comme ça, mais d'aller les nourrir nous de façon individuelle et de toute façon de rester vraiment groupés, collectifs et de pas essayer de faire des divisions, des choses comme ça, même s'il y a les pharmaciens d'un côté. En fait, l'idée c'est de trouver un consensus, on peut tous fonctionner ensemble et c'est ça que j'aimerais aussi dire là. Voilà.
On va même dire que c'est la seule manière de s'en sortir. Alors,
excusez-moi, je voulais juste intervenir. On est réunis, donc on a affaire qu'à des spécialistes, des gens du métier de l'herboristerie, et je pense qu'il manque un acteur essentiel, c'est, je ne dirais pas le consommateur, parce que ce n'est pas le mot exact, l'utilisateur de ces éléments-là. Et donc, on a besoin de savoir ce qu'il attend de nous. Et donc, il est important de l'intégrer dans ce travail.
Ça a été dit quand même. Hein. Voilà. C'est ressorti quand même pas mal. Hein. Je crois que...
Il va donner son avis de façon superficielle. On a tendance à l'infantiliser.
Ça, d'accord.
Donc, il a besoin de participer à ce travail. Okay. Qu'est-ce qu'il attend de nous?
Voilà.
En fait, la Fédération des paysans herboristes s'était posé la même question que toi. Et donc, on a lancé une enquête l'année dernière qui a été analysée. Et en fait, il y avait des choses quand même assez intéressantes là-dedans. Alors, j'ai plus tout en tête, bien sûr, mais il y a eu quand même 1500 réponses. Ça, c'est vraiment... C'était quand même une grosse enquête avec des petits moyens. Donc, ça a déjà démontré une très, très grande motivation. Il y avait plus de 60% des gens qui étaient OK après pour faire même un entretien plus long. Enfin, on sentait une très, très forte motivation de la part des consommateurs. Bon, c'est vrai que ça a été envoyé l'information dans des circuits un peu sensibilisés, mais quand même assez large. La Garance Voyageuse avait participé, par exemple. C'était pas que des revues de phyto, c'était pas que le syndicat des simples. Il y avait, moi, ce qui m'avait intéressé, je vous mets ça en vrac, hein, c'est que, notamment, il y avait une assez bonne culture de la plante parmi ses usagers de l'herboristerie, et notamment, si on comparait, il y avait des études qui avaient été comparées entre la conscience du risque que pouvaient représenter les plantes et la conscience du risque du médicament, on était exactement au même niveau, quoi. En fait, les gens sont pas dupes, c'est pas des innocents qui font n'importe quoi. Ils se rendent très bien compte du risque qu'il peut y avoir, y compris avec une plante. Des choses comme ça. Il y avait aussi un gros fantasme sur l'herboriste, parce qu'on disait que la personne idéale pour répondre aux questions, c'était l'herboriste, sauf qu'il n'existe pas. Et c'était assez marrant, on avait posé la question de savoir vers qui les gens se tournaient. Et là, je suis vraiment content qu'on soit là aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut que les choses bougent. Il y avait un truc qui était quand même un petit peu triste, c'est que les seules personnes qui, légitimement, avaient le droit de conseiller et d'accompagner les gens à utiliser des plantes, c'est les pharmaciens. Ils arrivaient à leur dernière position, quoi, dans l'attente des gens. Donc ça veut dire quelque chose, il fallait que ça bouge. Mais le consommateur, on y a pensé. Ça montrait en quelques mots une forte attente, une culture qui a vraiment changé. Je pense que les Français sont pas les mêmes vis-à-vis des plantes il y a 30 ans qu'aujourd'hui, pas du tout. Ils s'informent et une vraie attente de changement, quoi. Je sais pas donc, si tu comme il as est, d'autres idées en tête. Que tu peux
comme il est quasiment 18h13, on est pas mal du tout. Donc c'est le moment de la conclusion. Là, on s'arrête.